Écrit ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Françoise Latour.
Bonjour.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs, reçoit aujourd'hui Françoise Latour pour son deuxième roman, À travers la toile, Traverser la toile, pardon, paru en 2004 aux éditions MVO Livre Blanc. En 2024, décidément, ni le titre ni l'année ne sont bons, je suis désolée.
Mais ça va venir, ça va venir.
Donc, je reprends Françoise Latour pour son deuxième roman qui s'appelle Traverser la toile, paru en 2024 aux éditions MVO Livre Blanc. Alors, Françoise Latour n'est pas une inconnue puisque nous l'avions déjà reçue dans notre émission du 4 mars 2023 pour son premier roman intitulé Moleskine et paru en 2022. Alors voilà, sans dévoiler la thématique de ce nouvel ouvrage, hein, nous verrons, et pour ceux qui avaient déjà écouté la précédente émission, qu'il y a un petit fil entre les deux. Alors Françoise, écrire un premier roman, c'est déjà une aventure, un investissement, comme tu avais pu nous le dire déjà il y a 2 ans qu'on s'est vu. Et la question, c'est comment on s'engage dans une nouvelle aventure, un deuxième roman, finalement assez peu de temps après le premier, hein, quand on sait le temps de l'écriture.
Oui, alors justement, c'est probablement parce que j'étais dans un espèce d'appel d'air créé par le premier. J'étais dans une dynamique et puis j'ai eu la chance. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une chance. Il y a eu le Covid en 2020 qui nous a ouvert un espace de grande disponibilité, enfin pour ma part en tout cas, et qui m'a fait vivre un certain nombre de choses qui m'ont inspiré ce deuxième roman. Et de fait, j'ai commencé à l'écrire à la fin du confinement, du premier confinement.
D'accord, merci.
Dans son roman « Traverser la toile », Françoise Latour nous plonge dans la vie intime d'un couple, Charles et Elisabeth, la cinquantaine, d'un milieu très aisé. À ce stade de leur vie commune, le désir sexuel n'est plus ce qu'il était. Dans un groupe d'échange avec des artistes peintres, Elisabeth est accrochée par Thomas, ses discours flatteurs, elle est séduite, puis amoureuse de cet homme virtuel, double de Charles. Comment se sortir d'un tel engrenage ?
Alors, en écho à ce que je disais sur le fil directeur entre ces deux ouvrages, dans Moleskine, on se rappelle, on était centré sur la question de l'emprise, hein, d'un homme sur une femme. Dans ce nouveau roman, je ne sais pas si on peut parler d'emprise, mais en tout cas, on est au cœur d'une forme de manipulation, de domination. Alors bien évidemment, une thématique récurrente. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, c'est une thématique qui m'intéresse peut-être par rapport à un certain vécu, certainement. Et puis, ce sont des questions que j'ai été amenée à creuser parce que je m'y intéresse beaucoup. Je m'intéresse énormément au rapport humain, à tout ce qui est psychologie et notamment, effectivement, les rapports de domination qui peuvent s'installer dans des familles ou dans le travail, ou dans n'importe quel contexte. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent. Là, je pense que j'ai quand même fait le tour de la question, puisque j'ai démarré un troisième roman où le sujet est complètement différent. Mais je me dis qu'en quelque sorte, j'ai peut-être exorcisé quelque chose que j'avais besoin de sortir de moi. Et voilà ce qui explique cette thématique un peu récurrente.
Enfin, là, elle se laisse piéger quand même. Elle est bernée,
Elle est bernée, mais elle est bernée parce que je crois que quand on est berné, c'est qu'on veut bien être berné quelque part. Je crois qu'elle est tout à fait prête à se laisser berner parce qu'elle est tellement dans ce vide. Bah, vide, il y a un vide déjà existentiel parce qu'elle s'ennuie, cette femme. Elle s'ennuie. Elle a aussi son problème de santé qui fait que la seule activité qu'elle pouvait avoir, c'était donc l'équitation. Elle a ce problème au dos qui l'empêche de monter. Donc, c'est un vide abyssal. Et en fait, ce Thomas, il arrive à point nommé pour lui faire vivre des choses qu'elle n'espérait même plus vivre, quoi.
On a pourtant l'impression qu'elle a tout.
Matériellement, elle a tout. Mais si on regarde bien, elle a un rapport exécrable avec sa fille. Enfin, ça, je pense que ça vient d'elle plus que de la fille, parce qu'elle a une fille qui est quand même une crème, à mon avis. Et puis, elle a ce mari qui, malgré tout, n'est pas très présent, parce que son mari, il est, depuis toujours, dans ses bouquins, dans ses rêves, dans une forme de fuite, lui aussi. Et comme elle est très demandeuse, parce que elle a un côté petite fille capricieuse, et ben, elle n'y trouve pas son compte. Donc, tous les ingrédients sont là pour qu'elle se laisse happer.
Alors, une autre constante dans les livres, c'est que, en tout cas, les figures de femmes sont plutôt des femmes dominées, manipulées. Et la deuxième chose que l'on trouve, dans le premier roman, la mère était assez malmenée par son fils, en tout cas peu considérée. Et dans ce deuxième roman, on va dire bis repetita, cette fille, hein, donc Nina, a quand même un rapport extrêmement conflictuel avec sa mère, pour ne pas dire plus, et lui tient des propos absolument affreux, abominables,
ah oui, c'est voilà,
peu importe. En tant que lectrice, on s'est dit toutes les deux, forcément, on fait toujours des autoréférences, on se dit, oh, moi jamais, jamais nos enfants nous auraient parlé comme ça. Donc il y a vraiment là aussi quelque chose qui presque de. Il n'y a pas de considération, il y a presque, en tout cas, on pourrait dire presque un mépris de ses enfants pour leurs parents, et là, en tout cas, pour les mères.
Oui, mais là, je prends le cas de Nina. Nina, c'est une ado qui est plutôt, moi, je pense, plutôt saine. Et je pense que Nina est déçue par sa mère, parce que je pense qu'une fille, elle attend de sa mère un certain exemple pour devenir elle-même une femme. Et sa mère ne lui donne que l'exemple de l'immaturité, du narcissisme. Donc je crois que Nina, elle aurait besoin d'admirer, elle aurait besoin d'estimer sa mère, et elle trouve en face d'elle, en fait, une gamine. D'ailleurs, je pense qu'elle le dit à un moment donné, elle a l'impression d'être avec une sœur, une petite peste, plus qu'avec une mère, ce qui explique les propos qu'elle lui tient. Non, mais elle n'a pas du tout le même comportement avec son père, par exemple.
Mais ça ne date pas de son âge d'adolescente, puisque si on comprend dans le livre qu'en fait, elle n'a jamais eu une relation, même petite,
tout à fait,
avec sa mère. Enfin, sa mère n'a jamais voulu, apparemment.
Oui, oui, sa mère n'a jamais voulu
avoir de relation avec cette fille, cette petite fille, ce petit enfant, quoi.
Bah déjà, la mère ne voulait pas d'enfant. Elle a avorté une première fois. Elle a eu un enfant. Elle a laissé se dérouler cette grossesse jusqu'à son terme parce qu'elle a eu peur de perdre son mari. Parce qu'elle savait très bien que lui, il bavait devant les enfants des autres. Il en avait très envie. Donc, elle a eu peur, en n'ayant pas d'enfant, qu'il aille peut-être éventuellement en faire ailleurs. Donc, c'est ce qui explique. Mais elle n'est pas du tout maternelle. Elle est beaucoup trop auto-centrée pour pouvoir s'intéresser à des enfants.
Elle semble par moments même jalouse de sa fille.
Elle est jalouse. Elle est jalouse. Elle est jalouse parce
de
que
sa jeunesse,
fille
en tout
est
cas.
Belle, voilà. Mais finalement, c'est assez classique, je crois. Enfin, classique. C'est triste, mais je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui en sont là avec leur fille, malheureusement. Des femmes qui arrivent autour de la cinquantaine et qui voient arriver le déclin, entre guillemets.
Parce qu'il y a la concurrence.
Il y a pas de déclin.
Elle voit la concurrence arriver.
Il n'y a pas de déclin du tout.
Alors, ça fait un lien peut-être avec une question. Parce qu'en fait, dans le roman, donc la stratégie, hein, comme tu as dit dans le résumé, le désir qui commence à partir, la cinquantaine qui arrive, les enfants qui s'en vont. Enfin bon, tout ce moment, on appelle ça le syndrome du nid vide.
Hein,
mais la stratégie prise par Charles, puisque Charles essaie de reconquérir sa femme en se faisant passer pour un autre, pourrait être relativement romantique, mais on s'aperçoit qu'effectivement, ça vient révéler en fait quelque chose d'assez sordide Oui, dans ces relations finalement très classe sociale aisée, où tout est un peu feutré, on sauve les apparences. En tout cas, moi, j'ai lu cette stratégie-là comme étant presque, oui, ça a révélé quelque chose, en tout cas, parce qu'on sent que ça monte au fur et à mesure du roman.
Oui. Mais c'est vrai que c'est très malsain. Et puis, oui, ça devient sordide parce que aussi, Elisabeth est une femme qui a des appétits sexuels très, très prononcés. Et comme je crois que finalement, ça réveille aussi quelque chose chez Charles, eh ben, ils partent dans un délire... je dirais d'un érotico, enfin je sais pas trop comment désigner ça, mais c'est vrai que c'est pas du tout l'amour courtois, l'amour romantique, c'est plutôt débridé et ouais, c'est ça, très très physique, très charnel, bien que virtuel finalement. Oui.
Mais presque comme un espèce de révélateur, en tout cas moi j'ai au-delà peut-être de cet échange charnel assez brutal. Alors voilà, on est preneur ou pas preneur, mais il y a même quelque chose d'assez humiliant, méprisant, comme si ça mettait sur grand écran finalement, ou sur écran, tout ce malaise, ces relations qui sont vraiment absolument tordues, mais qui ont été socialement enveloppées, un peu comme oui. Une forme de liberté de couple, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui est pollué, quoi.
Oui, complètement. Et c'est vrai, mais c'est l'avantage du virtuel, en fait. Le virtuel permet de libérer des tas de choses qu'on n'oserait jamais libérer autrement, d'où le grand danger, justement, que représentent les réseaux sociaux. Parce que c'est l'endroit où on peut se laisser aller à tout un tas de pulsions et tout ce qui était plus ou moins refoulé, et qui là peut sortir sous le couvert de finalement d'un certain anonymat. Et je pense que Charles s'engouffre là-dedans avec grand, grand bonheur, effectivement.
Voilà. Ouais, on en reparlera Merci. Après la pause musicale. Françoise Latour a choisi Lay 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 de Bob Dylan.
Lay, 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 lay across my big breast bed. Lay, 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 lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, 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 lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.
long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2 dans l'émission du Ciala écrit d'ici. Nous sommes en compagnie de Françoise Latour pour son roman Traverser la toile.
Alors, on a parlé de Charles, d'Elisabeth, de Nina, mais il y a aussi un autre personnage qui est à la fois en filigrane et en même temps très présent, c'est Paul.
Oui, Paul.
Alors, Paul, donc cet homme qui monte le cheval d'Elisabeth, qu'elle ne peut plus monter du fait de sa maladie. Alors, c'est quelque chose d'un peu particulier parce que là aussi, on a l'impression qu'il se rejoue quelque chose autour de la manipulation. Alors, à la fois, il y a du côté de Charles assez un mépris de classe pour cet homme, vraiment.
Oui, totalement.
En même temps, il perçoit le danger par rapport à sa femme.
C'est ça, exactement.
Voilà. Et elle il y a comme un peu un... en tout cas, moi, j'ai eu l'impression d'un comme un chat avec une souris, un petit peu. Hein,
c'est tout à fait ça.
Voilà, donc je ne sais pas comment tu peux...
Oui, Elisabeth, au départ, je crois qu'elle... Pour elle, Paul, il est un peu transparent. D'ailleurs, la preuve, la scène qui se joue chez eux, là où elle l'invite à déjeuner, elle l'invite à déjeuner, mais en fait, elle s'en fiche complètement de lui. C'est, lui, c'est la potiche, en fait. Elle ne le voit pas. Et puis, au fil du temps, elle a le sentiment quand même d'avoir un certain pouvoir sur lui. Et elle sent confusément qu'elle le séduit, ça, très clairement. Et Paul, il est réellement amoureux de cette femme. Il est très attiré par cette femme qui n'a a priori rien pour le séduire. Parce que c'est quelqu'un qui est très loin de ses valeurs à lui. Et mais bon, ça, c'est pas quelque chose qui va se commander. Et puis, je pense qu'il sent que peut-être il pourrait se rejoindre sur un certain nombre de choses aussi. Donc, ça explique un petit peu cette relation qui est très ambiguë entre eux. Mmh. Et qui n'aboutit finalement à pas grand-chose. Pas grand-chose.
Parce qu'à un moment donné, on se dit peut-être que ça pourrait être la part d'humanité. Parce que finalement, dans ce roman... c'est vrai, tout à l'heure je disais, c'est d'une grande tristesse en fait, ce grand vide affectif dont tu parles, cet ennui, ouais, il y a une espèce de détresse, alors peut-être que le mot est fort, mais en tout cas, qui est un peu la mère de tous les vices, on pourrait dire ça pour ouais, paraphraser, mais voilà, et on se dit, hop, cet homme, tout d'un coup, il est plutôt ordinaire, plutôt, et on
a l'impression... Oui, mais il est saint, lui.
Voilà, mais oui, qui pourrait faire naître des sentiments, au moins chez cette femme, dont on a quand même l'impression que tout n'est que façade, en fait, tout n'est qu'artifice.
Bien sûr, tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai ce personnage de Paul, c'est peut-être la petite éclaircie dans toute cette noirceur. C'est vrai que c'est la personne probablement la plus saine de toutes. Enfin, je pense que Nina est assez saine, elle aussi. Je pense qu'elle n'a pas eu de chance, malheureusement. La preuve, c'est que Nina et Paul s'entendent très bien.
Tout
et on
fait.
Le voit notamment vers la fin du roman. Mais cet homme-là, il est simple. Il est brut, il est pur. Il est, voilà, c'est un homme épris de nature, épris de belles choses, épris d'authentique. Et c'est vrai qu'il est vraiment aux antipodes de cette femme qui vit beaucoup dans le paraître, quand même.
Oui, mais et puis Elisabeth, de toute façon, elle ne s'intéresse pas aux autres. Ah, sauf quand c'est Thomas, parce qu'il la flatte.
Voilà.
Il exactement. Va dans le sens du poil,
parce
il
qu'il
lui
la
dit
flatte,
ce qu'elle a envie d'entendre.
Parce voilà. qu'il la flatte et parce que c'est facile, parce qu'il n'existe pas réellement. C'est beaucoup plus facile d'entretenir une relation avec quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas d'investissement réel si c'est quelqu'un qui n'est que virtuel. Et c'est tellement plus facile. Donc, c'est pour elle, effectivement, Thomas, c'est le rêve.
Mais j'aimerais bien qu'on reparle justement de ces arnaques là, sur Internet. Parce que, bon,
oui.
Elle avait l'air de tomber des nues dans le roman. Bon, même sans être adepte des réseaux sociaux, on sait de plus en plus que les arnaques existent, et notamment les arnaques de cœur.
Oui.
Et
mais... Elisabeth a beau être assez... elle est ce qu'elle est, mais elle est en même temps hyper naïve. Elle est hyper naïve et elle est un petit peu en dehors du monde réel. Elle vit dans cette maison à la campagne. Il y a relativement peu de temps qu'elle a arrêté de monter son cheval, mais avant, sa vie, ça se limitait à ses galops dans la nature, ses bouquins. Et elle est, les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'elle découvre. D'ailleurs, on voit sa maladresse quand elle doit se créer un compte sur Facebook. C'est un univers qui lui est totalement étranger. Et puis, je pense qu'elle doit se dire... Enfin, elle ne doit pas imaginer qu'elle, on puisse la piéger, quoi. Parce qu'elle est tellement convaincue de sa supériorité, quelque part. Non, à moi, ça ne peut pas m'arriver, quoi. Ce n'est pas possible. Donc, je crois que ça explique qu'elle se laisse piéger très facilement. Et c'est son amie Ariane qui lui ouvre les yeux, finalement. Mm-hmm. Qui, elle, est beaucoup plus ancrée dans la réalité, pour le coup.
Moi aussi, c'est vrai que je prends beaucoup la parole aujourd'hui.
Vas-y.
C'était à propos de Charles.
Oui.
Parce qu'il espionne sa femme.
Oui.
Ce qui est quand même pas rien. Non seulement il fait un faux profil, ça s'appelle, c'est ça.
Oui.
Mais en plus, il l'espionne, il lit son courrier, quoi.
Son courrier, c'est-à-dire.
Ce qu'elle publie sur.
Forcément.
Oui, non, mais enfin. Non, c'est pas rien, quoi, je veux dire.
Ah mais non, c'est pas rien. Mais je pense que chez lui, bon,
c'est un pervers.
C'est révoltant, mais il y a en même temps cette grande insécurité qu'il ressent parce que.
Ça n'excuse quand même pas de lire le courrier de sa femme.
Ah non, je suis tout à fait d'accord. Mais je crois que dans la vie, malheureusement, il y a beaucoup de choses odieuses qui peuvent s'expliquer par des grandes fragilités. Et contrairement aux apparences, Charles, il a sa fragilité aussi. C'est quelqu'un qui est en plein désarroi. Il est terrorisé à l'idée de perdre cette femme. Il est terrorisé. Et puis, il est fragilisé aussi. Bon, on comprend au fil de l'histoire qu'il a perdu une petite sœur à laquelle il était très attaché. Et ça a probablement été quelque chose de très fondateur dans sa personnalité. Donc, je n'excuse pas Charles, en aucun cas.
Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, le livre se lit à plusieurs niveaux. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelque chose en même temps de fort intéressant sur ce que la détresse, les fragilités peuvent finalement faire à des gens à peu près ordinaires. Mais en tout cas, c'est peut-être aussi une alerte sur ces vides sidéraux qu'habitent les uns et les autres. Tout à l'heure, tu parlais des réseaux sociaux. On en parlait avec Martine en venant sur ces relations duelles avec les objets, avec le téléphone. Il y a quelque chose d'un peu de l'enfermement parfois.
Tout à fait.
Voilà.
C'est vraiment quelque chose que j'ai voulu montrer. Comment finalement, dans nos vies, on en vient à valoriser quelque chose qui n'existe pas réellement par rapport à des gens bien réels qui sont autour de nous. Et ça, c'est typiquement Elisabeth. Elle a une famille, ça pourrait être très harmonieux. Elle a une fille avec qui elle pourrait avoir une très belle relation. Mais non, elle s'enfuit dans le virtuel. Et je pense que j'ai voulu aussi montrer comme ça le danger de notre époque. Parce qu'on a des jeunes aussi qui ont cette tendance-là. On voit bien ce qui se passe en ce moment. Les relations amoureuses des jeunes, c'est un petit peu la cata, quoi.
Enfin, sauf qu'elle, apparemment, dans le livre... elle n'a pas attendu les réseaux sociaux pour vivre à côté des autres, quoi. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue.
Effectivement, non. Mais à partir du moment où elle a découvert ce truc-là, ça a exacerbé son naturel, qui était effectivement de vivre renfermée sur elle-même et pour elle, avant tout. Donc, c'est comme si les réseaux sociaux avaient vraiment été créés pour elle.
Comment dirais-je ? Alors, effectivement, on a fait... Une dernière question, c'est possible ? On a fait une lecture partiale, hein, puisqu'on a des points de vue, des entrées. Est-ce que toi, tu as des choses que tu aurais aimé dire à ce propos de ce livre, à côté duquel nous serions passés ou sur lequel nous n'aurions pas été attentives ?
Ah non, je crois que vous avez réellement tout bien perçu. Donc, je suis contente parce que ça veut dire que le message que je voulais faire passer est passé. Quand même, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai, tu as parlé tout à l'heure de tristesse. C'est vrai que moi, j'ai voulu terminer le livre sur cette note un petit peu triste, parce que c'est ce monologue de Nina qui est finalement très désabusé. Et je crois que c'est un petit peu un témoin encore de notre époque. Quelque chose d'une tristesse, beaucoup peut-être chez les jeunes générations, comme si il y avait des choses écrites d'avance et que, ma foi, on ne pouvait pas y faire grand-chose.
D'accord, merci beaucoup.
De rien. Bonne journée.
Non, c'est pas tout à fait fini. Non. Juste pour te demander, avant de conclure, tes projets quand même.
Alors là, oui, je suis sur un troisième roman. Où il n'est pas du tout question de manipulation. Alors, je ne sais pas si je vous en dis plus ou non, mais peut-être pas. Mais j'ai commencé, il est tout juste commencé. Je suis rendue la 20e page.
D'accord.
Mais il sera beaucoup plus court.
Donc, rendez-vous dans quelques mois alors pour ce troisième roman.
D'ici un an peut-être.
Bon, d'accord. Le rendez-vous est pris alors.
Très bien. Et puis, tu seras au festival, au salon plutôt.
Oui,
de Pornic, qui sera le 22 ou 23 juillet, on le redira. Très bien. Donc, pour conclure, Françoise Latour a choisi It's All Over Now, Baby Blue, par Them.
You think will last, but whatever you wish to keep, you better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire in the sun. Baby, the saints are coming through, and it's all over now, baby blue. The highway is for gamblers, better use your sense. Take what you have gathered from coincidence. Drawing crazy patterns on your sheets. The sky too is falling in over you, and it's all over now, baby blue. Now.